France Culture.
À voix nue, cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Yasmina Reza, figure importante du monde des arts depuis un quart de siècle et jouée dans le monde entier. Couronnée par un Molière de l'auteur en 1987, dès sa première pièce, Conversation après un enterrement, elle triomphe quelques années plus tard avec Art et devient le premier auteur non anglo-saxon distingué par un prestigieux Tony Award. En 2010, Le Dieu du Carnage lui vaut un nouveau Tony Award et une adaptation cinématographique signée Roman Polanski. Cette série d'À voix nue lève le voile sur une artiste qui se prête très peu à l'exercice de l'entretien, et c'est d'ailleurs le sujet de sa dernière pièce, Comment vous raconter la partie. Quatrième entretien, le manque de l'autre en sa présence.
Pour ce nouvel épisode d'À voix nue, Yasmina Reza, je voulais vous proposer de placer cet entretien aujourd'hui sous le signe de la passion, des passions. Il me semble que vous n'en manquez pas. L'une des premières passions, on l'a dit, ça a été la lecture, puis ça a été le théâtre, ce désir d'être comédienne. On n'en a pas parlé, mais vous avez joué avant d'être jouée. Il y a eu comme actrice, notamment, en 1985, Le Veilleur de nuit de Sacha Guitry avec Fabrice Luchini, que vous retrouverez plus tard pour Art. C'était vos grands débuts sur scène ?
Ah non, le Veilleur de nuit, je jouais déjà depuis quelques années, dans une lumière éblouissante. mais je jouais.
Quelles impressions, quels souvenirs des premières fois en tant que comédienne ? Est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginiez peut-être ?
Non. Non, parce que... J'ai jamais eu vraiment des rôles qui, les rôles dont je rêvais, je les avais pas. Les metteurs en scène avec qui j'avais envie de travailler, je les atteignais pas. Ça a tout de suite, immédiatement, été l'école, la grande école de la frustration. Et alors, s'il y a bien une chose pour laquelle je ne suis pas du tout faite, c'est pour cette grande école de la frustration. Non pas que moins qu'une autre, j'ai dû affronter ça, mais ça pouvait pas être un mode de vie. Donc, et honnêtement, je peux pas dire qu'on puisse mettre ça dans les passions. J'ai jamais eu la passion de l'actrice. Je me suis amusée comme actrice. Il m'est arrivé ensuite de rejouer durant la suite de ma vie professionnelle, à chaque fois avec grand plaisir. Mais si ça devait durer, comme une fois ça a duré très longtemps malgré moi, je m'ennuie très vite dans la répétition de ça. C'est pas ma vie, je suis pas du tout une actrice.
Mais est-ce qu'il y aurait pas eu de passion à jouer justement de grands rôles passionnés ? Je sais pas, je vous aurais bien vu en Bérénice, par exemple.
Non, j'ai le grand regret de certains rôles. Et dans la pièce espagnole, j'ai dit quelque chose que je crois très vrai, c'est que quand on veut interpréter des rôles très forts, comme toute une série de rôles que j'aurais aimé faire, eh bien, l'âge passe, vous passez à côté des rôles, et puis c'est fini un jour. On se laisse dans des pages qui sont rêvées, que jamais plus on ne pourra jouer. C'est très intéressant. Le rôle est à un âge, et vous le dépassez. C'est curieux comme sensation. Vous ne pouvez plus jamais jouer ça. Alors, à moins d'être à l'époque de Sarah Bernhardt, où il y avait plus de... On ne modélisait pas l'âge sur l'âge de l'acteur. Mais aujourd'hui, on veut un certain naturalisme. Et je pense que c'est une bonne chose, quand même, d'avoir l'âge du rôle. Donc, il y a des rôles que... De plus en plus, que je ne jouerai jamais. Et pas seulement à cause de l'âge, parce que personne ne pense jamais à moi pour me les proposer. Mais il y a certains rôles que j'aimerais faire avec certains metteurs en scène, mais voilà, c'est pas plus que ça. ça change rien à ma vie, ça n'a pas d'importance. Quand je lis, par exemple, Yasmina Reza, écrivain, actrice, metteur en scène, tout ça me paraît complètement faux, ahurissant. Je suis écrivain, point. Le reste, c'est des activités anecdotiques. Enfin, le reste, actrice, c'est une activité anecdotique et amusante qui n'est pas fondamentale. Quant aux autres metteurs en scène ou cinéastes, que je ne suis pas du tout, c'est pas vrai. Metteur en scène ou faisant des films, c'est écrivain, pour moi. C'est la même chose.
Qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en scène, alors, au théâtre ?
Chez Lecoq, par exemple, je mettais en scène. Ma première incursion au théâtre n'a pas été comme actrice, mais c'était une pièce que j'avais mise en scène au Lucernaire. Donc c'est une activité de longue date, la mise en scène. Enfin, disons, de longue date, d'il y a longtemps, parce que je ne l'ai pas poursuivi ensuite. Il m'a toujours semblé, maintenant beaucoup moins à juste titre, qu'il fallait un autre regard. Que ça aurait été dommage de... ayant écrit les pièces, de les assujettir au même regard que celui qui les avait écrites.
Et le Dieu du carnage, c'est un concours de circonstances,
c'est... Non, pas du tout. Et pendant longtemps, des amis m'ont dit « Mais pourquoi tu ne mets pas en scène ?» Parce qu'eux avaient plus confiance dans la nouveauté de mon regard par rapport à ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai que je me décale très vite de ce que je fais, par habitude et par tempérament. Mais encore une fois, je croyais pas que c'était juste de faire ça, donc je l'ai pas fait. Le Dieu du carnage est tout de suite, c'était une commande d'un metteur en scène magnifique qui s'appelle Jürgen Gauche, qui est mort maintenant, qui a monté 3 de mes pièces en Allemagne. À mon avis, un des plus grands metteurs en scène allemands des 10 dernières années. Et il m'avait commandé cette pièce pour faire une création à Zurich. Et avec, en coproduction avec le Berliner. Et donc, il y avait une création mondiale qui n'était pas avec mon œil. Donc, je me suis dit, là, voilà. Puisque ce n'est pas moi qui va donner la première image, je peux la mettre en scène, qui était quand même un désir que j'avais depuis longtemps. Oui. Et puis, j'avais envie de le faire avec Isabelle Huppert, que j'adore, que je trouve une immense actrice. Isabelle, on se connaît depuis toujours. Donc, c'était l'occasion.
Il y a eu du plaisir ?
Très grand. J'ai adoré. Et j'aimerais maintenant poursuivre. Mais même, éventuellement, monter des pièces qui ne soient pas de moi.
Ah oui.
Mais c'est la même chose. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que je deviens metteur en scène. C'est exactement la même chose. C'est une autre forme d'écriture avec des outils différents. Mais on écrit quand on met en scène. Enfin, en tout cas, moi, je me perçois comme ça.
Alors, votre passion, véritablement, nous l'avons à peine évoquée précédemment, Yasmina Reza, une passion qui remonte loin, la musique. J'ai lu quelque part, mais est-ce vrai, que votre mère... était violoniste, mais que vous ne l'aviez jamais entendu jouer.
Oui.
Comment est-ce possible ?
Elle a abandonné le violon dès qu'elle s'est mariée, donc avant ma naissance.
Elle ne le touchait plus ?
Plus jamais.
Comment est-ce que vous comprenez ça ?
Elle dit, et je la crois, mais en fait je l'analyse quand même un peu différemment, elle dit qu'elle avait atteint un niveau très haut, ce qui est vrai absolument. Elle était l'élève de Michel Schwalbe, qui était le premier violon de Karajan. Elle avait un premier prix de conservatoire à Genève. Enfin, elle était vraiment une violoniste soliste. Et quand elle a immigré en France politiquement, elle ne pouvait plus retourner à Budapest, ou en tout cas, elle ne le souhaitait pas. Elle s'est retrouvée... devant donner des cours de violon, et le seul travail qu'elle a trouvé, c'était travailler dans un orchestre où elle s'est sentie diminuée de niveau. Et quand elle s'est mariée, je crois qu'elle n'aimait plus assez ça, elle n'avait pas assez de foi peut-être dans une carrière de soliste pour repartir à l'aventure de ça. Et elle a toujours dit, je pense que c'est vrai avec le violon, quand tu joues très bien du violon, si tu ne travailles pas pour maintenir ton niveau, tu le perds. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et elle n'a pas pu se vivre, elle n'a pas assez d'énergie et de désir pour reprendre, et elle n'a pas pu se vivre comme une violoniste moyenne. Voilà, donc,
Il n'y avait pas de pratique, même familiale, est-ce que vous jouiez à la maison ?
Non, elle ne jouait jamais, elle écoutait de la musique. Mon père jouait du piano, s'était mis au piano sur le tard. Mon père a tout fait sur le tard. Et prenait des leçons de piano. Moi, je prenais des leçons de piano, mais on était des piètres amateurs. Enfin, on était... Ça n'avait rien à voir avec elle. Elle fermait les portes, d'ailleurs.
C'est vrai.
Ouais.
Quel souvenir vous avez de la pratique, vous, du piano? Est-ce que vous y preniez du plaisir? Ou est-ce que c'était, malgré tout, comme on peut le faire enfant, avec un mélange d'exercices imposés, pas tout à fait dans le plaisir?
Non, je n'y prenais aucun plaisir. C'était totalement imposé, ça me barbait. Je me souviens des... On faisait du Czerny, du Grieg, des œuvres que je n'aimais pas. J'avais un professeur qui m'imposait des choses que je n'aimais pas. J'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé. Et ensuite, dans l'âge adulte, j'ai repris des cours de piano, mais vraiment dans l'âge très adulte, à plus de 30 ans, enfin, peut-être juste avant, mais pas loin. Et là, j'ai travaillé dur, avec un professeur que j'aimais, avec... C'était très différent.
Vous pratiquez toujours ?
Sans professeur, je ne pratique pas. Mais ça ne gêne personne. De toute façon, je me suis exposée à jouer du piano en public parce que j'ai fait une tournée, au moment où j'étais actrice, j'ai fait une tournée très importante, internationale réellement, parce qu'on a joué en Amérique du Sud, en Europe, du Piège de Méduse d'Éric Satie, la seule pièce qu'a écrit Éric Satie, une pièce complètement loufoque, où dedans je jouais 12 chansons plus des gymnopédies. Donc je me produisais en tant que pianiste en public. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie.
Quelles émotions ça produit ?
Uniquement de la terreur.
Aucun plaisir ?
À la longue, j'avais un peu de plaisir parce que je savais que j'arrivais à le faire. Mais au début, un trac, et pas le bon trac, parce que c'est le trac de perdre ses moyens. Je ne suis pas quand même une musicienne ni une pianiste, donc j'avais vraiment peur de faire des fausses notes. Je ne maîtrisais pas l'art de ça.
Mais chez vous, seul, vous ne jouez pas ?
Non, j'ai joué beaucoup, j'ai joué longtemps, mais si je n'ai pas un professeur chaque semaine... Je suis pas prête à me discipliner. Puis c'est vrai que j'ai quand même peu de temps. Donc le fait d'avoir un professeur chaque semaine oblige à créer un espace de temps pour ça. Et si je ne m'y oblige, c'est difficile de s'y obliger soi-même. C'est très difficile.
Et la musique, celle qu'on écoute, elle a quelle place dans votre vie ?
C'est très variable. Ça dépend des périodes de ma vie. Je peux ne pas en écouter. Un des seuls regrets que j'ai de plus avoir de voiture, c'est ça. Parce que la voiture, je trouve, était, les embouteillages, enfin la voiture dans Paris, était un espace très privilégié d'écoute. J'ai écouté, je me rends compte, beaucoup de musique tant que je conduisais. Maintenant que je ne conduis plus, il y a ce lieu qui est très fermé, très silencieux, où la musique remplit l'espace, qui n'existe plus. Et chez moi, j'en écoute moins, curieusement. J'écoute radio classique, où j'écoute de la musique rock. Mais de la musique classique, j'en écoute moins.
Et le concert, l'opéra, vous y allez ?
Opéra, j'aime pas. Je comprends pas l'opéra, à part Mozart. Je comprends pas du tout l'opéra. C'est bâtard pour moi. Je sais que c'est... que je devrais pas trop dire ça, mais je comprends rien. C'est pas du théâtre, c'est pas de la vraie musique. C'est de la vraie musique, mais il y a de la vraie musique entrecoupée de trucs que je comprends pas du tout. Des types qui parlent vaguement, c'est pas complètement parlé, c'est pas chanté non plus. Le récitatif est pour moi tout à fait incompréhensible. Les livrets, les trois quarts sont débiles. Je comprends pas l'opéra.
Ah, c'est drôle. L'art total, alors vous n'y croyez pas, là, pour le coup.
Ah non, c'est pas un art total, c'est un art bâtard.
Non, mais cette prétention que peut avoir l'opéra, parfois, d'être un art total.
Alors, je comprends, dans le cas de Don Giovanni, par exemple, qui, pour moi, est le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre. Dans la création, je pense qu'il n'y a jamais eu, en tant qu'art total, quelque chose d'aussi prodigieux. Parce que Don Giovanni, ça va du livret, qui est éblouissant, qui est le meilleur livret sur ce thème, même bien meilleur que Molière, de mon point de vue. Ça va du livret à la musique, au thème, à la puissance du sujet. Enfin, c'est la perfection. Et ça va de la tragédie à la comédie. Donc c'est une sorte de d'événement historique qui a mélangé véritablement, pour le coup, tous les genres, au plus haut niveau.
Ça dépasse même pour vous les pièces instrumentales ?
Ah oui, dans Don Giovanni, il y a des moments musicaux qui sont parmi les plus beaux et les plus intéressants et les plus... Oui, je mettrais dans le panthéon même de la musique tout court, y compris la musique de chambre que j'aime plus que la musique d'opéra ou symphonique.
Alors, musique de chambre, pour rester un instant sur ce sujet, est-ce qu'il y a une œuvre qui, pareillement, est au-dessus des autres pour vous ?
Là aussi, j'aurais envie de vous dire que ça dépend des moments de la vie. Je crois pas qu'on... moi, j'ai une grande fidélité aux gens. Et visiblement, maintenant, je me rends compte un peu moins de fidélité aux œuvres que j'aime. Il en va des livres, des tableaux, de la musique. C'est des amis d'un certain moment que je chéris et que je garde comme notoires pour moi. Mais ils changent d'actualité, ce qui n'est pas vrai du tout pour les gens. Mais j'ai adoré la musique de chambre de Schubert, j'ai adoré les quatuors de Beethoven. Si, je dirais quand même, de façon assez pérenne, et hier comme aujourd'hui, les sonates pour violon et piano de Bach, ou pour violoncelle et violon de Bach. J'ai l'impression qu'il y a une éternité chez Bach. Je ne me lasse jamais de Bach.
Et sur la possible, alors... possible changement de goût. Est-ce que vous avez relu, par moment dans votre vie, ces grands Russes que vous dévoriez adolescente ? Est-ce que vous avez changé de regard sur eux ?
Ça a été très douloureux, ça. Parce que un jour, j'ai vu un spectacle qui était d'ailleurs très réussi, qui était Platonov, et j'ai découvert ce nouveau traducteur, Markovitch. Et je me suis dit, tiens, j'ai appris après qu'il avait retraduit Dostoïevski, donc j'ai acheté ses traductions. J'ai vu que c'était vraiment bien, avec Françoise Morvan, ils sont deux. Et j'ai vu que c'était vraiment bien, et j'ai commencé à lire, et j'ai compris que c'était pas la nouvelle traduction qui me gênait. C'était tout simplement mon rapport, moi, avec ces œuvres-là. J'avais grandi, j'avais vieilli, j'avais changé. Et j'attendais plus exactement la même chose. Et il y avait quelque chose qui... un charme qui s'était rompu. Mais curieusement, il y a un an ou deux, je ne sais plus maintenant, je suis allée voir Les Possédés à l'Odéon qu'avait monté Peter Stein, dans une adaptation évidemment terriblement coupée et resserrée, mais très classique, très, très sans effet. Vraiment, moi, j'ai énormément aimé ce spectacle qui était, par rapport à ce qu'on peut connaître de Stein, un spectacle extraordinairement calme et peu démonstratif. Et là, j'ai de nouveau retrouvé le bouleversement de mes années d'adolescence. Donc, je me suis dit, peut-être sous une forme plus édulcorée, plus édulcorée en description, ça fonctionne encore.
Il y a d'autres livres qui, par contre, vous font toujours le même effet,
oui,
que vous avez relu ?
Oui, il y en a un que je relis, dont je relis des passages régulièrement, que je mets vraiment extrêmement haut. C'est Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est pour moi le livre peut-être le plus fascinant de l'histoire de la littérature. Parce qu'il y a une énigme profonde là-dedans. C'est écrit par une fille qui a 26 ans, qui... selon les historiens, ne sait pas de quoi elle parle. Enfin, elle le sait intimement et mieux que quiconque, mais qui ne l'a pas expérimenté. Donc, pour un écrivain, c'est très intéressant. Ça prouve bien que l'expérimentation ne sert absolument à rien, qu'il y a donc un aspect très devinatoire dans l'écriture, très prémonitoire. Il y a une science, il y a une connaissance de l'être, de la vieillesse, de la vie, de la mort, de toutes les passions, de toutes les fonctions humaines, qui n'a strictement rien à voir avec l'expérimentation. Donc ce livre en est la quintessence pour moi. Outre que narrativement, c'est vraiment du génie qu'elle fasse raconter cette histoire par une gouvernante qui elle-même est terriblement subjective et qui va colorer l'histoire selon sa propre subjectivité alors qu'elle n'est jamais décrite par l'auteur. Enfin, c'est extraordinaire. Le personnage d'Escliffe, il y a peu de comparaisons en littérature d'un personnage aussi puissant et aussi fantasmatique et aussi mythologique. Donc, ce que cette fille réussit à faire dans ce livre est quand même stupéfiant.
À propos de grandes passions, quand même, Yasmina Reza, on évoque Don Giovanni, Léo Durlevent. S'il y a bien une passion qui importe, c'est l'amour. On ne peut pas parler ensemble de vos passions sans parler de cette expérience à la fois essentielle, forcément tragique, et qui nous laisse malgré tout toujours seuls, qui est l'amour.
Est-ce qu'il y a une question dans...
Non.
Voilà, c'est ça, vous pensez que vous n'allez pas espérer quand même que je vais me mettre à gambader sur ce terrain comme ça, spontanément. Non.
Mais il y a quelque chose qui est quand même... ça, vous en avez parlé, que ce soit dans des textes ou dans des entretiens, c'est que... bien sûr, l'amour, mais toujours la solitude.
Mais...
J'ai laissé trois petits points, vous avez entendu.
Je pense que c'est une erreur, quand même, d'avoir associé l'amour à la non-solitude, ou associer l'amour au bonheur, ou associer l'amour à quelque chose d'autre que lui-même, est une grave erreur, est un leurre. C'est nous voulons que l'amour soit réparateur. Mais d'abord, de quel amour on parle? Le mot amour, je l'aime pas trop parce qu'il recouvre des réalités complètement différentes. Je pense que le seul amour qui mériterait ce nom en tant que tel, et c'est pas l'usage qu'on en fait, c'est l'amour désintéressé, c'est-à-dire l'amour qui ne voudrait que le bien de l'autre. Ce qui en aucun cas n'est l'amour d'un homme et d'une femme, en tant que passion, qui est même l'inverse. Donc l'amour désintéressé pour quelqu'un existe, bien sûr, et c'est le seul. On peut en voir des traces dans l'amitié, des traces dans le rapport avec les enfants, mais je dis bien des traces. C'est très difficile un amour dont on n'espère rien. Mais la seule définition possible. Le reste, c'est autre chose. Et donc, pourquoi cette autre chose devrait être heureux? Pourquoi cette autre chose devrait être, devrait combler telle ou telle solitude? Au contraire, moi, je pense que ça ne fait qu'y ramener. Mais on a une solitude ontologique, de toute façon. Il faut pas se leurrer là-dessus. La solitude, parfois à deux, est bien plus prégnante parce qu'elle se voit. Elle devient visible. C'est comme ce livre magistral qui, là aussi, tiens, voilà un livre qui ne me quitte pas et qui traverse le temps avec grand bonheur. C'est le fragment du discours amoureux de Barthes. Il a vraiment, on peut dire, ratissé le terrain. Eh bien, il cite, il y a une citation de lui merveilleuse où il dit, enfin, je ne sais pas si c'est une citation ou c'est lui qui l'invente, il dit, dans le chapitre « Le manque », il y a aussi le manque de l'hôte en sa présence, qui est bien plus fort. Il le dit mieux, hein, mais c'est la substance du chapitre. Il en va de même de la solitude. La solitude à deux est bien plus forte que la solitude seule. Parce que la solitude à deux est emprisonnante. Je n'ai pas du tout répondu à la question. Hein.
Et en même temps, il n'y avait pas de question. Ah, voilà. Vous l'avez souligné,
c'est pour ça que
mais c'est vrai que c'est à la fois cette conscience extrême de la solitude, en même temps le fait que... voilà, l'amour est une chose... on dit ce mot amour, hein, par facilité, est à la fois ce qui nous fait vivre intensément et en même temps ce qui nous dévaste, enfin bon. Et en même temps, ça permet aussi d'aborder la vie avec une forme de légèreté, qui serait une élégance aussi, quand même. La frivolité, elle vient de là aussi, de savoir que l'existence est tragique. Je dis des choses un peu grandiloquentes ici, mais il s'agit de ça, quand même. On peut être léger si on sait que tout est grave.
Et là, on ne parle plus de l'amour, là.
Aussi.
Aussi. Non, mais quand je vois bien que quand on dit amour, en général, on dit être amoureux. Ce que je rapproche le plus d'une certaine frivolité essentielle, c'est être amoureux. Et c'est vrai que je trouve ça essentiel, moi. C'est nécessaire à la création, c'est nécessaire à la vie. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de création culturelle? Je me pose la question parfois, je n'en sais rien.
Mais cette question des émotions, des passions ou l'amour. Ça renvoie aussi quelque chose qui est très présent dans vos textes, Yasmina Reza. Vos personnages, ils sont bien souvent dépassés par ce qu'ils ressentent. C'est quand même quelque chose comme la passion contre la raison, enfin la revanche contre la raison. Et c'est dans Art, hein, j'ai noté ça. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. La passion est plus forte, est plus belle, est plus grande.
C'est pas les mots que je... Alors, plus forte, oui. Plus forte, oui. Plus belle, j'en sais rien. Plus grande, sûrement pas. Et la passion... Qu'est-ce que c'est, la passion ? C'est très difficile de délimiter la passion. C'est un mot idiot. C'est complètement idiot, la passion, en tant que mot. N'importe quelle petite actrice aujourd'hui vous dire j'ai la passion de mon métier, je veux dire, c'est c'est un mot complètement galvaudé, finalement assez méprisable en soi. Mais passion, c'est, moi je l'entends un peu à la grecque, c'est-à-dire tomber dans un abîme, dans un abîme, oui, qui est plus grand que vous, mais en tant qu'abîme. Donc c'est une tentation très grande, la passion, voilà. C'est ça, la passion. Et c'est une tentation d'autant plus grande que, par exemple, quelqu'un comme moi, j'essaie de me tempérer et j'ai un peu de mal à le faire. Parce que sinon, la vie me paraît assez vite ennuyeuse. Je pense que les gens qui ont cette difficulté de tempérance, c'est aussi des gens qui sont très sensibles à l'ennui. Et donc, ils vont, même là où ça brûle fort, même là où c'est dangereux, même parce que l'ennui, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je suis dans cette catégorie, qui est une catégorie difficile, hein, parce que, et qui n'est pas ni bien ni mal, et qui n'est pas mieux que qui manque de sagesse aussi, qui est une catégorie, mais peut-être nécessaire à l'écriture.
Ce mot de passion, peut-être pour finir là-dessus, me renvoie au Christ. Renvoie à Bach.
Oui. Oui, dans le mot passion, je l'aime bien, moi, dans son sens religieux, ce mot. C'est dans le sens amoureux et des magazines qui m'exaspère.
Ma passion avec un grand P, alors. Oui. Hein, il vaut mieux écouter Bach.
Ah, il vaut mieux écouter Bach, oui.
C'était À voix nue, Arnaud Laporte s'entretenait avec Yasmina Reza. Prise de son, Michel Mestre. Réalisation, Viviane Noël. Demain, dernier entretien, se sauver de la vie.